Jacques Cazotte, le diable amoureux. J'étais à 25 ans capitaine aux gardes du roi de Naples. Nous vivions beaucoup entre camarades et comme de jeunes gens, c'est-à-dire des femmes, du jeu, tant que la bourse pouvait y suffire. Et nous philosophions dans nos quartiers quand nous n'avions plus d'autres ressources. Un soir, après nous être épuisés en raisonnement de toute espèce autour d'un très petit flacon de vin de Chypre et de quelques marrons secs, le discours tomba sur la cabale et les cabalistes. L'un d'entre nous prétendait que c'était une science réelle et dont les opérations étaient sûres. 4 des plus jeunes m'y soutenaient que c'était un amas d'absurdités, une source de friponnerie propre à tromper les gens crédules et amuser les enfants. Le plus âgé d'entre nous, flamand d'origine, fumait sa pipe d'un air distrait et ne disait mot. Son air froid et sa distraction me faisaient spectacle à travers ce charivari discordant qui nous étourdissait et m'empêchait de prendre part à une conversation trop peu réglée pour qu'elle eût de l'intérêt pour moi. Nous étions dans la chambre du fumeur. La nuit s'avançait. On se sépara et nous demeurâmes seuls, notre ancien et moi. Il continua de fumer flegmatiquement. Je demeurai les coudes appuyés sur la table, sans rien dire. Enfin mon homme rompit le silence. « Jeune homme, me dit-il, vous venez d'entendre beaucoup de bruit. Pourquoi vous êtes-vous tiré de la mêlée ?» C'est, lui répondis-je, que j'aime mieux me taire que d'approuver ou blâmer ce que je ne connais pas. Je ne sais même pas ce que veut dire le mot de cabale. Il y a plusieurs significations, me dit-il, mais ce n'est point d'elle dont il s'agit, c'est de la chose. Croyez-vous qu'il puisse exister une science qui enseigne à transformer les métaux et à réduire les esprits sous notre obéissance? Je ne connais rien des esprits, à commencer par le mien, sinon que je suis sûr de son existence. Quant aux métaux, je sais la valeur d'un cadenas au jeu, à l'auberge et ailleurs, et ne peux rien assurer ni nier sur l'essence des uns et des autres, sur les modifications et impressions dont ils sont susceptibles. Mon jeune camarade, j'aime beaucoup votre ignorance. Elle vaut bien la doctrine des autres. Au moins, vous n'êtes pas dans l'erreur, et si vous n'êtes pas instruit, vous êtes susceptible de l'être. Votre naturel, la franchise de votre caractère, la droiture de votre esprit me plaisent. Je sais quelque chose de plus que le commun des hommes. Jurez-moi le plus grand secret sur votre parole d'honneur. Promettez de vous conduire avec prudence, et vous serez mon écolier. L'ouverture que vous me faites, mon cher Soberano, m'est très agréable. La curiosité est ma plus forte passion. Je vous avouerai que naturellement j'ai peu d'empressement pour nos connaissances ordinaires. Elles m'ont toujours semblé trop bornées, et j'ai deviné cette sphère élevée dans laquelle vous voulez m'aider à m'élancer. Mais quelle est la première clé de la science dont vous parlez ? Selon ce que disaient nos camarades en disputant, ce sont les esprits eux-mêmes qui nous instruisent. Mais peut-on se lier avec eux? Vous avez dit le mot, Alvar. On n'apprendrait rien soi-même. Quant à la possibilité de nos liaisons, je vais vous en donner une preuve sans réplique. Et comme il finissait ce mot, il achevait sa pipe. Il frappe 3 coups pour faire sortir le peu de cendre qui restait au fond, la pose sur la table assez près de moi. Il élève la voix. « Calderon, dit-il, venez chercher ma pipe, allumez-la et rapportez-la-moi. » Il finissait à peine le commandement. Je vois disparaître la pipe. Et avant que j'eusse pu raisonner sur les moyens ni demander quel était ce Calderon chargé de ses ordres, la pipe allumée était de retour et mon interlocuteur avait repris son occupation. Il a continué quelque temps, moins pour savourer le tabac que pour jouir de la surprise qu'il m'occasionnait. Puis se levant, il dit « Bon, je prends la garde au jour, il faut que je me repose. Allez vous coucher, soyez sage, et nous nous reverrons. » Je me retirai, plein de curiosité et affamé d'idées nouvelles, dont je me promettais de me remplir bientôt par le secours de Soberano. Je le vis le lendemain, les jours ensuite. Je n'eus plus d'autre passion, je devins son ombre. Je lui faisais 1000 questions. Il éludait les unes et répondait aux autres d'un ton d'oracle. Enfin, je le pressais sur l'article de la religion de ses pareils. « C'est, me répondit-il, la religion naturelle. » Nous entrâmes dans quelques détails. Ces décisions cadraient plus avec mes penchants qu'avec mes principes, mais je voulais venir à mon but et ne devais pas le contrarier. « Vous commandez aux esprits, lui disais-je. Bien, je veux, comme vous, être en commerce avec eux. Oui, je le veux, je le veux. » « Vous êtes vif, camarade, vous n'avez pas subi votre temps d'épreuve. Vous n'avez rempli aucune des conditions sous lesquelles on peut aborder sans crainte cette sublime catégorie. Et me faut-il bien du temps? Oh, peut-être 2 ans. « Oh, j'abandonne ce projet, m'écriai-je. Je mourrai d'impatience dans l'intervalle. Vous êtes cruel, Soberano. » Vous ne pouvez concevoir la vivacité du désir que vous avez créé dans moi. Il me brûle, jeune homme, je vous croyais plus de prudence. Vous me faites trembler pour vous et pour moi, quoi. Vous vous exposeriez à évoquer des esprits sans aucune des préparations. Et que pourrait-il m'en arriver? Je ne dis pas qu'il eût absolument vous en arriver du mal. S'ils ont du pouvoir sur vous, c'est notre faiblesse, notre pusillanimité qui le leur donne. Dans le fond, nous sommes nés pour les commander. Ah, mais je les commanderai. Oui, vous avez le cœur chaud, mais si vous perdez la tête, il vous effraie à certains points. Mais s'il ne tient qu'à ne les pas craindre, je l'ai au pis pour m'effrayer. Quoi? Quand vous verriez le diable? Je tirerai les oreilles au grand diable d'enfer. Bravo, si vous êtes si sûr de vous, vous pouvez vous risquer et je vous promets mon assistance. Allez, vendredi prochain, je vous donne à dîner avec 2 des nôtres et nous mettrons l'aventure à fin. Nous n'étions qu'à mardi. Jamais rendez-vous galant ne fut attendu avec tant d'impatience. Le terme arrive enfin. Je trouve chez mon camarade 2 hommes d'une physionomie peu prévenante. Nous dînons, la conversation roule sur des choses indifférentes. Après dîner, on propose une promenade à pied vers les mines de Portici. Nous sommes en route, nous arrivons. Ces restes des monuments les plus augustes, écroulés, brisés, épars, couverts de ronces, portent à mon imagination des idées qui ne m'étaient pas ordinaires. Voilà, disais-je, le pouvoir du temps sur les ouvrages de l'orgueil et de l'industrie des hommes. Nous avançons dans les mines, et enfin nous sommes parvenus presque à tâtons, à travers ces débris, dans un lieu si obscur qu'aucune lumière extérieure n'y pouvait pénétrer. Mon camarade me conduisait par le bras. Il cesse de marcher et je m'arrête. Alors un de la compagnie bat le fusil et allume une bougie. Le séjour où nous étions s'éclaire, quoique faiblement, et je découvre que nous sommes sous une voûte assez bien conservée, de 25 pieds carrés à peu près, et ayant 4 issues. Nous observions le plus parfait silence. Mon camarade, à l'aide d'un roseau qui lui servait d'appui dans sa marche, trace un cercle autour de lui sur le sable léger dont le terrain était couvert et en sort après y avoir dessiné quelques caractères. Entrez dans ce pentacle, mon ami, me dit-il, et n'en sentez qu'à bonnes enseignes. Expliquez-vous mieux. À quelles enseignes en dois-je sortir? Bien, quand vous sera soumis, mais avant ce temps, si la fraîcheur vous faisait faire une fausse démarche, vous pourriez courir les risques les plus grands. Alors, il me donne une formule d'évocation courte, pressante, mêlée de quelques mots que je n'oublierai jamais. « Récitez, me dit-il, cette conjuration avec fermeté, et appelez ensuite à trois fois clairement Belzébuth, et surtout n'oubliez pas ce que vous avez promis de faire. » Je me rappelais que je m'étais vanté de lui tirer les oreilles. « Je tiendrai parole, lui dis-je, ne voulant pas en avoir le démenti. « Nous vous souhaitons bien du succès, me dit-il. Et quand vous aurez fini, vous nous avertirez. Vous êtes directement vis-à-vis de la porte par laquelle vous devez sortir pour nous rejoindre. » Et il se retire. Jamais Fanfaron ne se trouva dans une crise plus délicate. Je fus au moment de les rappeler. Mais il y avait trop à rougir pour moi. C'était d'ailleurs renoncer à toutes mes espérances. Je me raffermis sur la place où j'étais, et tins un moment conseil. « On a voulu m'effrayer, dis-je. On veut voir si je suis pusillanime. Les gens qui m'éprouvent sont à deux pas d'ici, et à la suite de mon évocation, je dois m'attendre à quelques tentatives de leur part pour m'épouvanter. Tenons bon. Tournons la raillerie contre les mauvais plaisants. » Cette décision fut assez courte, quoique un peu troublée, par le ramage des hiboux et des chevaux qui habitaient les environs et même l'intérieur de ma caverne. Un peu rassuré par mes réflexions, je me rassois sur mes reins, je me piète, je prononce l'évocation d'une voix claire et soutenue, et en grossissant le son, j'appelle à trois reprises et à très courts intervalles Belzébuth. Un frisson courait dans toutes mes veines et mes cheveux se hérissaient sur ma tête. À peine avais-je fini, une fenêtre s'ouvre à deux battants vis-à-vis de moi, au haut de la voûte. Un torrent de lumière plus éblouissante que celle du jour fond par cette ouverture. Une tête de chameau horrible, autant par sa grosseur que par sa forme, se présente à la fenêtre. Surtout, elle avait des oreilles démesurées. L'odieux fantôme ouvre la gueule et, d'un ton assorti au reste de l'apparition, me répond « Que voy ?» Toutes les voûtes, tous les caveaux des environs retentissent à l'envi du terrible « Que voy ?» Je ne saurais peindre ma situation. Je ne saurais dire qui soutint mon courage et m'empêcha de tomber en défaillance à l'aspect de ce tableau, au bruit plus effrayant encore qui retentissait à mes oreilles. Je sentis la nécessité de rappeler mes forces. Une sueur froide allait les dissiper. Je fis un effort sur moi. Il faut que notre âme soit bien vaste et ait un prodigieux ressort. Une multitude de sentiments, d'idées, de réflexions touchent mon cœur, passent dans mon esprit et font leur impression toutes à la fois. La révolution s'opère, je me rends maître de ma terreur et je fixe hardiment le spectre. « Et que prétends-tu toi-même, téméraire, en te montrant sous cette forme hideuse ?» Le fantôme balance un moment. « Tu m'as demandé, » dit-il d'un ton de voix plus bas. « L'esclave, lui dis-je, cherche-t-il à effrayer son maître ? Si tu viens recevoir mes ordres, prends une forme convenable et un ton soumis. « Maître, me dit le fantôme, sous quelle forme me présenterai-je pour vous être agréable ?» La première idée qui me vint à la tête était celle d'un chien. « Viens, lui dis-je, sous la figure d'un épagneul. À peine avais-je donné l'ordre, l'épouvantable chameau allonge le col de 16 pieds de longueur, baisse la tête jusqu'au milieu du salon et vomit un épagneul blanc à soie fine et brillante, les oreilles traînantes jusqu'à terre. La fenêtre s'est refermée, toute autre vision a disparu. Et il ne reste sous la voûte suffisamment éclairée que le chien et moi. Il tournait tout autour du cercle en remuant la queue et faisant des courbettes. « Maître, me dit-il, je voudrais bien vous lécher l'extrémité des pieds, mais le cercle redoutable qui vous environne me repousse. » Ma confiance était montée jusqu'à l'audace. Je sors du cercle, je tends le pied, le chien le lèche. Je fais un mouvement pour lui tirer les oreilles. Il se couche sur le dos comme pour me demander grâce. Je vis que c'était une petite femelle. « Lève-toi, lui dis-je, je te pardonne. Tu vois que j'ai compagnie. Ces messieurs attendent à quelque distance d'ici. La promenade a dû les altérer. Je veux leur donner une collation. Il faut des fruits, des conserves, des glaces, des vins de graisse. Que cela soit bien entendu. Éclaire et décore la salle sans faste, mais proprement. Vers la fin de la collation, tu viendras en virtuose du premier talent et tu porteras une harpe. Et je t'avertirai quand tu devras paraître. Prends garde à bien jouer ton rôle, mais de l'expression dans ton chant, de la décence, de la retenue dans ton maintien. J'obéirai, maître, mais sous quelles conditions ? Bien, sous celle d'obéir, esclave, obéis, et obéis sans réplique, ou... Ah, vous ne me connaissez pas, maître, vous me traiteriez avec moins de rigueur. J'y mettrai peut-être l'unique condition de vous désarmer et de vous plaire. Le chien m'est à peine fini, qu'en tournant sur le talon, je vois mes ordres s'exécuter plus promptement qu'une décoration ne s'élève à l'opéra. Les murs de la voûte, ci-devant noirs, humides, couverts de mousse, prenaient une teinte douce, des formes agréables. C'était un salon de marbre jaspé. L'architecture présentait un cintre soutenu par des colonnes. 8 girandoles de cristaux, contenant chacune 3 bougies, y répandaient une lumière vive, également distribuée. Un moment après, la table et le buffet s'arrangent, se chargent de tous les apprêts de notre régal. Les fruits et les confitures étaient de l'espèce la plus rare, la plus savoureuse et de la plus belle apparence. La porcelaine employée au service et sur le buffet était du Japon. Et la petite chienne faisait 1000 tours dans la salle, 1000 courbettes autour de moi, comme pour hâter le travail et me demander si j'étais satisfait. « Fort bien, Biondetta, lui dis-je. Prenez l'habit de livrée, allez dire à ces messieurs qui sont près d'ici que je les attends et qu'ils sont servis. » À peine avais-je détourné un instant mes regards, je vois sortir un page à ma livrée, lestement vêtu, tenant un flambeau allumé, et peu après, il revint, conduisant sur ses pas mon camarade le flamand et ses 2 amis. Préparés à quelque chose d'extraordinaire par l'arrivée et le compliment du page, il ne l'était pas au changement qui s'était fait dans l'endroit où il m'avait laissé. Si je n'eusse pas eu la tête occupée, je me serais plus amusé de leur surprise. Elle éclata par leurs cris, se manifesta par l'altération de leurs traits et par leurs attitudes. « Messieurs, leur dis-je, vous avez fait beaucoup de chemin pour l'amour de moi. Il nous en reste à faire pour regagner Naples. J'ai pensé que ce petit régal ne vous obligerait pas et que vous voudriez bien excuser le peu de choix et le défaut d'abondance en faveur de l'impromptu. » Mon aisance se déconcerta plus encore que le changement de la scène et la vue de l'élégante collation à laquelle il se voyait invité. Je m'en aperçus et résolus de terminer bientôt une aventure dont intérieurement je me défiais. Je voulus en tirer tout le parti possible, en forçant même la gaieté qui fait le fond de mon caractère. Je les pressai de se mettre à table. Le page avançait les sièges avec une promptitude merveilleuse. Nous étions assis, j'avais rempli les verres, distribué des fruits. Ma bouche seule s'ouvrait pour parler et manger. Les autres restaient béantes. Cependant, je les engageai à entamer les fruits. Ma confiance les détermina. Je porte la santé de la plus jolie courtisane de Naples. Nous la buvons. Je parle d'un opéra nouveau, d'une improvisation romaine, arrivée depuis peu et dont les talents font du bruit à la cour. Je reviens sur les talents agréables, la musique, la sculpture, et par occasion je les fais convenir de la beauté de quelques marbres qui font l'ornement du salon. Une bouteille se vide et est remplacée par une meilleure. Le page se multiplie et le service ne languit pas un instant. Je jette l'œil sur lui à la dérobée. Figurez-vous l'amour en trousse de page. Mes compagnons d'aventure le lorgnaient de leur côté d'un air où se peignaient la surprise, le plaisir et l'inquiétude. La monotonie de cette situation me déplut. Je vis qu'il était temps de la rompre. « Bientôt, dis-je au page. La signora Fiorentina m'a promis de me donner un instant. Voyez si elle ne serait point arrivée. » Biondetto sort de l'appartement. Mes hôtes n'avaient point encore eu le temps de s'étonner de la bizarrerie du message, qu'une porte du salon s'ouvre et Fiorentina entre tenant sa harpe. Elle était dans un déshabillé étoffé modeste, un chapeau de voyage et un crêpe très clair sur les yeux. Elle pose sa harpe à côté d'elle, salue avec aisance, avec grâce. « Seigneur Don Alvar, dit-elle, je ne t'ai pas prévenu que vous eussiez compagnie. Je me serais moins présenté vêtu comme je suis. Ces messieurs voudront bien excuser une voyageuse. » Elle s'assied et nous lui offrons à l'envi les reliefs de notre petit festin, auquel elle touche par complaisance. « Quoi, madame, lui dis-je, vous ne faites que passer par Naples ? On ne saurait vous y retenir ? » Un engagement déjà ancien m'y force, Seigneur. On a eu des bontés pour moi à Venise au carnaval dernier. On m'a fait promettre de revenir et j'ai touché des arts. Sans cela, je n'aurais pu me refuser aux avantages que m'offrait ici la cour et à l'espoir de mériter les suffrages de la noblesse napolitaine, distinguée par son goût au-dessus de toutes celles de l'Italie. Les deux Napolitains se courbent pour répondre à l'éloge, saisis par la vérité de la scène au point de se frotter les yeux. Je pressai la virtuose de nous faire entendre un échantillon de son talent. Elle était enrhumée, fatiguée, elle craignait avec justice de déchoir dans notre opinion. Enfin, elle se détermina à exécuter un récitatif obligé et une ariette pathétique qui terminait le troisième acte de l'opéra dans lequel elle devait débuter. Elle prend sa harpe, prélude avec une petite main longuette, potelée, tout à la fois blanche et purpurine, dont les doigts insensiblement arrondis par le bout étaient terminés par un ongle dont la forme et la grâce étaient inconcevables. Oh, nous étions tous surpris. Nous croyions être au plus délicieux concert. La dame chante, on n'a pas, avec plus de gosier, plus d'âme, plus d'expression. On ne saurait rendre plus en changeant moins. J'étais ému jusqu'au fond du cœur, et j'oubliais presque que j'étais le créateur du charme qui me ravissait. La cantatrice m'adressait les expressions tendres de son récit et de son chant. Le feu de ses regards perçait à travers le voile. Il était d'un pénétrant, d'une douceur inconcevable. Ses yeux ne m'étaient pas inconnus. Enfin, en assemblant les traits tels que le voile me les laissait apercevoir, je reconnus dans Fiorentina le fripon de Biondetto. Mais l'élégance, l'avantage de la taille, se faisait beaucoup plus remarquer sous l'ajustement de femme que sous l'habit de page. Quand la cantatrice eut fini de chanter, nous lui donnâmes de justes éloges. Je voulus l'engager à nous exécuter une ariette vive pour nous donner lieu d'admirer la diversité de ses talents. « Non, répondit-elle, je m'en acquitterai mal dans la disposition d'âme où je suis. D'ailleurs, vous avez dû vous apercevoir de l'effort que j'ai fait pour vous obéir. Ma voix se ressent du voyage, elle est voilée. Vous êtes prévenu que je pars cette nuit. C'est un cocher de louage qui m'a conduite, je suis à ses ordres. Je vous demande en grâce d'agréer mes excuses et de me permettre de me retirer. » En disant cela, elle se lève, veut emporter sa harpe. Je la lui prends des mains et après l'avoir reconduite jusqu'à la porte par laquelle elle s'était introduite, je rejoins la compagnie. Je devais avoir inspiré de la gaieté et je voyais de la contrainte dans les regards. J'eus recours au vin de Chypre. Je l'avais trouvé délicieux, il m'avait rendu mes forces, ma présence d'esprit. Je doublais la dose et, comme l'heure s'avançait, je dis à mon page, qui s'était remis à son poste derrière mon siège, d'aller faire avancer ma voiture. Biondetto va sur le champ, sort et remplit mes ordres. « Vous avez ici un équipage ?» me dit Soverano. « Oui, répliquai-je, je me suis fait suivre, et j'ai imaginé que si notre partie se prolongeait, vous ne seriez pas fâché d'en revenir commodément. Allez, buvons encore un coup, nous ne courons pas les risques de faire de faux pas en chemin. » Ma phrase n'était pas achevée, que le page rentre, suivi de deux grands estafiers bien tournés, superbement vêtus à ma livrée. « Seigneur Don Alvare, me dit Biondetto, je n'ai pu faire approcher votre voiture, elle est au-delà, mais tout auprès des débris dont ces lieux sont entourés. Nous nous levons, Biondetto, les estafiers nous précèdent, on marche. Comme nous ne pouvions pas aller quatre de front entre des bases et des colonnes brisées, Soberano, qui se trouvait seul à côté de moi, me serra la main. « Vous nous donnez un beau régal, ami. Il vous coûtera cher. »« Ami, répliquai-je, mais je suis très heureux s'il vous a fait plaisir. Je vous le donne pour ce qu'il me coûte. » Nous arrivons à la voiture. Nous trouvons deux autres estafiers, un cocher, un postillon, une voiture de campagne à mes ordres, aussi commode qu'on puisse la désirer. J'en fais les honneurs et nous prenons légèrement le chemin de Naples. Nous gardâmes quelque temps le silence. Enfin, des amis de Soberano le rompt. Je ne vous demande point votre secret, Alvare, mais il faut que vous ayez fait des conventions singulières. Jamais personne ne fut servi comme vous l'êtes. Et depuis 40 ans que je travaille, je n'ai pas obtenu le quart des complaisances que l'on vient d'avoir pour vous dans une soirée. Je ne parle pas de la plus céleste vision qu'il soit possible d'avoir, tandis que l'on afflige nos yeux plus souvent que l'on ne songe à les réjouir. Enfin, vous savez vos affaires, vous êtes jeune. À votre âge, on désire trop pour se laisser le temps de réfléchir et on précipite ses jouissances. Bernardino, c'était le nom de cet homme, s'écoutait en parlant et me donnait le temps de penser à ma réponse. « Ben, j'ignore, lui répliquai-je, par où j'ai pu attirer des faveurs distinguées. J'augure qu'elles seront très courtes et Ma consolation sera de les avoir toutes partagées avec de bons amis. On vit que je me tenais sur la réserve, et la conversation tomba. Cependant, le silence amena la réflexion. Je me rappelais ce que j'avais fait et vu. Je comparais les discours de Soberano et de Bernardino et conclus que je venais de sortir du plus mauvais pas dans lequel une curiosité vaine et la témérité eussent jamais engagé un homme de ma sorte. Je ne manquais pas d'instruction. J'avais été élevé jusqu'à 13 ans, sous les yeux de Don Bernardo Maravillas, mon père, gentilhomme sans reproche, et par Dona Mercia, ma mère, la femme la plus religieuse, la plus respectable qui fut dans l'Estramadour. « Oh, ma mère, disais-je, que penseriez-vous de votre fils? Si vous m'aviez vu, si vous le voyez encore. Mais ceci ne durera pas, je m'en donne parole. » Cependant, la voiture arrivait à Naples. Je reconduisis chez eux les amis de Soberano. Lui et moi revînmes à notre quartier. Le brillant de mon équipage éblouit un peu la garde devant laquelle nous passâmes en revue, mais les grâces de Biondetto, qui étaient sur le devant du carrosse, frappèrent encore davantage les spectateurs. Le page congédie la voiture et la livrée, prend un flambeau de la main des estafiers et traverse les casernes pour me conduire à mon appartement. Mon valet de chambre, encore plus étonné que les autres, voulait parler pour me demander des nouvelles du nouveau train dont je venais de faire la montre. « C'en est assez, Carl, lui dis-je en entrant dans mon appartement. Je n'ai pas besoin de vous. Allez vous reposer. Je vous parlerai demain. » Nous sommes seuls dans ma chambre et Biondetto a fermé la porte sur nous. Ma situation était moins embarrassante au milieu de la compagnie dont je venais de me séparer et de l'endroit tumultueux que je venais de traverser voulant terminer l'aventure. Je me recueillis un instant. Je jette les yeux sur le page. Les siens sont fixés vers la terre. Une rougeur lui monte sensiblement au visage. Sa contenance décèle de l'embarras et beaucoup d'émotion. Enfin, je prends sur moi de lui parler. « Biondetto, vous m'avez bien servi. Vous avez même mis des grâces à ce que vous avez fait pour moi. Mais comme vous étiez payé d'avance, je pense que nous sommes quittes. Oh, Don Alvaro est trop noble pour croire qu'il ait pu s'acquitter à ce prix. » Si vous avez fait plus que vous ne me devez, si je vous dois du reste, donnez votre compte. Mais je ne vous réponds pas que vous soyez payé promptement. Le quartier courant est mangé. Je dois au jeu, à l'auberge, au tailleur. Vous plaisantez hors de propos. Mais si je quitte le ton de plaisanterie, ce sera pour vous prier de vous retirer. Car il est tard et il faut que je me couche. Et vous me reverriez civilement à l'heure qu'il est? Je n'ai pas dû m'attendre à ce traitement de la part d'un cavalier espagnol. Vos amis savent que je suis venu ici. Vos soldats, vos gens m'ont vu et ont deviné mon sexe. Si j'étais une ville courtisane, vous auriez quelque égard pour les bienséants de mon état. Mais votre procédé pour moi est flétrissant, ignominieux. Il n'est pas de femme qui n'en fût humiliée. Ah, il vous plaît donc à présent d'être femme pour vous concilier des égards. Eh bien, pour sauver le scandale de votre retraite, ayez pour nous le ménagement de l'affaire par le trou de la serrure. Quoi, sérieusement, sans savoir qui je suis? Mais puis-je l'ignorer? Mais vous l'ignorez, vous dis-je. Vous n'écoutez que vos préventions. Mais qui que je sois, je suis à vos pieds, les larmes aux yeux. C'est à titre de client que je vous implore. Une imprudence plus grande que la vôtre, excusable peut-être, puisque vous en êtes l'objet, m'a fait aujourd'hui tout braver, tout sacrifier pour vous obéir, me donner à vous et vous suivre. J'ai révolté contre moi les passions les plus cruelles, les plus implacables. Il ne me reste de protection que la vôtre, d'asile que votre chambre. Me la fermerez-vous, Alvare? Sera-t-il dit qu'un cavalier espagnol aura traité avec cette rigueur, cette indignité, quelqu'un qui a tout sacrifié pour lui, une âme sensible, un être faible dénué de tout autre secours que le sien, en un mot, une personne de mon sexe? Je me reculais autant qu'il m'était possible pour me tirer d'embarras, mais elle embrassait mes genoux et me suivait sur les siens, enfin, je suis rangé contre le mur. « Relevez-vous, lui dis-je, vous venez sans y penser de me prendre par mon serment. » Quand ma mère me donna ma première épée, elle me fit jurer sur la garde de servir toute ma vie les femmes et de n'en pas désobliger une seule. Quand ce ne serait que ce que je pense que c'est aujourd'hui. Eh bien, cruel, à quelque titre que ce soit, permettez-moi de rester dans votre chambre. Bien, je le veux, oui, pour la rareté du fait, et mettre le comble à la bizarrerie de mon aventure. Cherchez à vous arranger de manière que je ne vous voie ni ne vous entende. Vos premiers mots, vos premiers mouvements capables de me donner de l'inquiétude, je grossis le son de ma voix pour vous demander à mon tour « Que vuoi ?» Je lui tourne le dos et m'approche de mon lit pour me déshabiller. « Vous aiderai-je » me dit-on. « Non, non, je suis militaire et me sers moi-même. » Je me couche. À travers la gaze de mon rideau, je vois le prétendu page arranger dans le coin de ma chambre une natte usée qu'il a trouvée dans une garde-robe. Il s'assied dessus, se déshabille entièrement, s'enveloppe d'un de mes manteaux qui était sur un siège, éteint la lumière, et la scène finit là pour le moment. Mais elle recommença bientôt dans mon lit où je ne pouvais pas trouver le sommeil. Il semblait que le portrait du page fût attaché au ciel du lit et aux quatre colonnes. Je ne voyais que lui. Je m'efforçais en vain de lire avec cet objet ravissant l'idée du fantôme épouvantable que j'avais vu. La première apparition servait à relever le charme de la dernière. Ce chant mélodieux que j'avais entendu sous la voûte, ce son de voix ravissant, ce parler qui semblait venir du cœur, retentissait encore dans le mien et excitait un frémissement singulier. « Oh, Biondetta, disais-je, si vous n'étiez pas un être fantastique, si vous n'étiez pas ce vilain dromadaire !» Mais à quel mouvement me laissais-je emporter? J'ai triomphé de la frayeur. Déracinons un sentiment plus dangereux. Quelle douceur puis-je en attendre? Ne tiendrait-il pas toujours de son origine? Le feu de ses regards si touchants, si doux, est un cruel poison. Cette bouche si bien formée, si coloriée, si fraîche, et en apparence si naïve, ne souffre que pour des impostures. Ce cœur, si c'en est éteint, ne s'échaufferait que pour une trahison. Et pendant que je m'abandonnais aux réflexions occasionnées par les mouvements divers dont j'étais agité, la lune, parvenue au haut de l'hémisphère et dans un ciel sans nuages, dardait tous ses rayons dans ma chambre à travers trois grandes croisées. Je faisais des mouvements prodigieux dans mon lit. Il n'était pas neuf. Le bois s'écarte et les trois planches qui soutenaient mon sommier tombent avec fracas. Biondetta se lève, accourt à moi avec le ton de la frayeur, Don Alvar, quel malheur vient de vous arriver? Comme je ne la perdais pas de vue malgré mon accident, je la vis se lever et accourir. Sa chemise était une chemise de page, et au passage, la lumière de la lune ayant frappé sur sa cuisse avait paru gagner au reflet. Fort peu ému du mauvais état de mon lit, qui ne m'exposait qu'à être un peu plus mal couché, je le fus bien davantage de me trouver serré dans les bras de Biondetta. « Non, il ne m'est rien arrivé, lui dis-je, retirez-vous. Vous courez sur le carreau sans pantoufles, vous allez vous enrhumer, retirez-vous. » « Mais vous vous êtes mal à votre aise. » Oui, « Oui, vous m'y mettez actuellement. Allez, retirez-vous, puisque vous voulez être couché chez moi et près de moi. » Je vous ordonnerai d'aller dormir dans cette toile d'araignée là qui est à l'encoignure de ma chambre. » Elle n'attendit pas la fin de la menace et alla se coucher sur sa natte en sanglotant tout bas. La nuit s'achève et la fatigue prenant le dessus me procure quelques moments de sommeil. Je ne m'éveillais qu'au jour. On devine la route que prirent mes premiers regards. Je cherchais des yeux mon page. Il était assis, tout vêtu, à la réserve de son pourpoint, sur un petit tabouret. Il avait étalé ses cheveux qui tombaient jusqu'à terre, en couvrant à boucles flottantes et naturelles son dos et ses épaules, et même entièrement son visage. Ne pouvant faire mieux, il démêla sa chevelure avec ses doigts. Jamais peigne d'un plus bel ivoire ne se promena dans une plus épaisse forêt de cheveux blonds cendrés. Leur finesse était égale à toutes leurs autres perfections. Un petit mouvement que j'avais fait ayant annoncé mon réveil, elle écarte avec ses doigts les boucles qui ombragent le visage. Figurez-vous l'aurore au printemps, sortant d'entre les vapeurs du matin avec sa rosée, ses fraîcheurs, et tous ses parfums. « Biondetta, lui dis-je, prenez un peigne, il y en a dans le tiroir de ce bureau. » Elle obéit, et bientôt, à l'aide d'un ruban, ses cheveux sont rattachés sur sa tête avec autant d'adresse que d'élégance. Elle prend son pourpoint, met le comble à son ajustement, et s'assied sur son siège d'un air timide, embarrassé, inquiet, qui sollicitait vivement la compassion. « S'il faut, me disais-je, que je vois dans la journée 1000 tableaux plus piquants les uns que les autres, assurément je n'y donnerai pas. Amenons le dénouement, s'il est possible. » Je lui adresse la parole. « Le jour est venu, Biondetta. Les bienséances sont remplies. Vous pouvez sortir de ma chambre sans craindre le ridicule. » « Je suis, me répondit-elle, maintenant au-dessus de cette frayeur. Mais vos intérêts et les miens m'en inspirent une beaucoup plus fondée. Ils ne permettent pas que nous nous séparions. »« Vous vous expliquerez, lui dis-je. Je vais le faire, Alvare. Votre jeunesse, votre imprudence, vous ferment les yeux sur les périls que nous avons rassemblés autour de nous. À peine vous vis-je sous la voûte, que cette contenance héroïque à l'aspect de la plus hideuse apparition décida mon penchant. Si, me dis-je à moi-même, pour parvenir au bonheur je dois m'unir à un mortel, prenons un corps, il en est temps, voilà le héros digne de moi. Dût-ce s'en indigner les méprisables rivaux dont je lui fais le sacrifice? Dussé-je me voir exposé à leur ressentiment, à leur vengeance, que m'importe? Aimé d'Alvar et uni avec Alvar, eux et la nature, nous serons soumis. Et vous avez vu la suite. Voici les conséquences. L'envie, la jalousie, le dépit, la rage me préparent les châtiments les plus cruels auxquels puisse être soumis un être de mon espèce, dégradé par son choix. Et vous seul pouvez m'en garantir. À peine est-il jour et déjà les délateurs sont en chemin pour vous déférer comme nécromancien à ce tribunal que vous connaissez. Dans une heure. Arrêtez, m'écriai-je en me mettant les poings fermés sur les yeux. Vous êtes le plus adroit, le plus insigne des faussaires. Vous parlez d'amour, vous en présentez l'image, vous en empoisonnez l'idée. Mais je vous défends de m'en dire un mot. Laissez-moi me calmer assez, si je le puis, pour devenir capable de prendre une résolution. S'il faut que je tombe entre les mains du tribunal, je ne balance pas pour ce moment-ci entre vous et lui. Mais si vous m'aidez à me tirer d'ici, à quoi m'engagerai-je? Puis-je me séparer de vous quand je le voudrais? Je vous somme de me répondre avec clarté et précision. Pour vous séparer de moi, Alvare, il suffira d'un acte de votre volonté. J'ai même regret que ma soumission soit forcée. Si vous méconnaissez mon zèle par la suite, vous serez imprudent, ingrat. Je ne crois rien, sinon qu'il faut que je parte. Je vais éveiller mon valet de chambre. Il faut qu'il me trouve de l'argent, qu'il aille à la poste. Je me rendrai à Venise, près de Bertinelli, banquier de ma mère. Ah, il vous faut de l'argent. Heureusement, je m'en suis précautionné. J'en ai à votre service. Non, gardez-le. Si vous étiez une femme, en l'acceptant, je ferais une bassesse. Ce n'est pas un don, c'est un prêt que je vous propose. Donnez-moi un mandement sur le banquier. Faites un état de ce que vous devez ici. Laissez sur votre bureau un ordre à Karl pour payer. Disculpez-vous par lettre auprès de votre commandant sur une affaire indispensable qui vous force à partir sans congé. J'irai à la poste vous chercher une voiture et des chevaux. Mais auparavant, Alvare, forcé à m'écarter de vous, je retombe dans toutes mes frayeurs. Dites, esprit qui ne t'es lié à un corps que pour moi et pour moi seul, j'accepte ton vasselage et t'accorde ma protection. En me prescrivant cette formule, elle s'était jetée à mes genoux, me tenait la main, la pressait, la mouillait de larmes. J'étais hors de moi, ne sachant quelle partie prendre. Je lui laisse ma main qu'elle baise, et je balbutie les mots qui lui semblaient si importants. À peine ai-je fini qu'elle se relève. « Je suis à vous !» s'écrie-t-elle avec transport. « Oh, je pourrais devenir la plus heureuse de toutes les créatures !» En un moment, elle s'affuble d'un long manteau, rabat un grand chapeau sur ses yeux et sort de ma chambre. J'étais dans une sorte de stupidité. Je trouve un état de mes dettes. Je mets au bas l'ordre à Karl de le payer. Je compte l'argent nécessaire. J'écris au commandant, à un de mes plus intimes, des lettres qu'il dut retrouver extraordinaires. Et d'là, la voiture et le fouet du postillon se faisaient entendre à la porte. Biondetta, toujours le nez dans son manteau, revient et m'entraîne. Karl, éveillé par le bruit, paraît en chemise. Allez-lui, dis-je, à mon bureau, vous y trouverez mes ordres. Je monte en voiture, je pars. Biondetta était entrée avec moi dans la voiture, elle était sur le devant. Quand nous fûmes sortis de la ville, elle ôta le chapeau qui la tenait à l'ombre. Ses cheveux étaient renfermés dans un filet cramoisi. On n'en voyait que la pointe, c'était des perles dans du corail. Son visage, dépouillé de tout autre ornement, brillait de ses seules perfections. On croyait voir un transparent sur son teint. On ne pouvait concevoir comment la douceur, la candeur, la naïveté pouvait s'allier au caractère de finesse qui brillait dans ses regards. Je me surpris, faisant malgré moi ces remarques, et les jugeant dangereuses pour mon repos, je fermai les yeux pour essayer de dormir. Ma tentative ne fut pas vaine. Le sommeil s'empara de mes sens et m'offrit les rêves les plus agréables, les plus propres à délasser mon âme, des idées effrayantes et bizarres dont elle avait été fatiguée. Il fut d'ailleurs très long, et ma mère, par la suite, réfléchissant un jour sur mes aventures, prétendit que cet assoupissement n'avait pas été naturel. Enfin, quand je m'éveillais, j'étais sur les bords du canal sur lequel on s'embarque pour aller à Venise. La nuit était avancée, je me sens tiré par ma manche, c'était un portefaix, il voulait se charger de mes ballots. Je n'avais pas même un bonnet de nuit. Biondetta se présenta à une autre portière pour me dire que le bâtiment qui devait me conduire était prêt. Je descends machinalement, j'entre dans la felouque et retombe dans ma léthargie. Que dirais-je ? Le lendemain matin, je me trouvais logé sur la place Saint-Marc, dans le plus bel appartement de la meilleure auberge de Venise. Je le connaissais, je le reconnus sur le champ. Je vois du linge, une robe de chambre assez riche auprès de mon lit. Je soupçonnais que ce pouvait être une attention de l'hôte, chez qui j'étais arrivé dénué de tout. Je me lève et je regarde si je suis le seul objet vivant qui soit dans la chambre. Je cherchais Biondetta. Honteux de ce premier mouvement, je rendis grâce à ma bonne fortune. Cet esprit et moi ne sommes donc pas inséparables. J'en suis délivré. Et après mon imprudence, si je ne perds que ma compagnie aux gardes, je dois m'estimer très heureux. Courage, Alvare, continuai-je. Il y a d'autres cours, d'autres souverains que celui de Naples. Ceci doit te corriger, si tu n'es pas incorrigible, et tu te conduiras mieux. Si on refuse tes services, une mère tendre, l'estramadour et un patrimoine honnête tendent les bras. Et que te voulait ce lutin qui ne t'a pas quitté depuis 24 heures? Il avait pris une figure bien séduisante. Il m'a donné de l'argent, je veux le lui rendre. Comme je parlais encore, je vois arriver mon créancier. Il m'amenait 2 domestiques et 2 gondoliers. Il faut, dit-il, que vous soyez servi en attendant l'arrivée de Karl. On m'a répondu dans l'auberge de l'intelligence et de la fidélité de ce gens-ci. Et voici les plus hardis patrons de la République. « Je suis content de votre choix, Biondetta, lui dis-je. Vous êtes-vous logé ici ?»« J'ai pris, me répond le page, les yeux baissés, dans l'appartement même de votre Excellence, la pièce la plus éloignée de celle que vous occupez, pour vous causer le moindre embarras qu'il sera possible. » Je trouvais du ménagement, de la délicatesse dans cette attention à mettre de l'espace entre elle et moi. Je lui en sus gré. Au pis-aller, disais-je, je ne saurais la chasser du vague de l'air, s'il lui plaît de s'y tenir invisible pour m'obséder. Quand elle sera dans une chambre connue, je pourrai calculer ma distance. Et content de mes raisons, je me donnais légèrement mon approbation à tout. Je voulais sortir pour aller chez le correspondant de ma mère. Biondetta donna ses ordres pour ma toilette, et quand elle fut achevée, je me rendis où j'avais dessein d'aller. Le négociant me fit un accueil dont j'eus lieu d'être surpris. Il était à sa banque. De loin, il me caresse de l'œil, vient à moi. « Oh, Don Alvare, me dit-il, je ne vous croyais pas ici. Vous arrivez très à propos, pour m'empêcher de faire une bévue. J'allais vous envoyer 2 lettres et de l'argent. » Celui de mon quartier, répondis-je. Oui, répliqua-t-il, et quelque chose de plus. Voilà 200 sequins en sus qui sont arrivés ce matin. Un vieux gentilhomme, à qui j'en ai donné le reçu, me les a remis de la part de Doña Mencia. Ne relevant pas de vos nouvelles, elle vous a cru malade et a chargé un espagnol de votre connaissance de me les remettre pour vous les faire passer. Vous a-t-il dit son nom ? Ben, je l'ai écrit dans le reçu. C'est Don Miguel Pimientos, qui dit avoir été écuyer dans votre maison. Ignorant votre arrivée ici, je ne lui ai pas demandé son adresse. Je pris l'argent, j'ouvris les lettres. Ma mère se plaignait de sa santé, de ma négligence, et ne parlait pas des sequins qu'elle envoyait. Je n'en fus que plus sensible à ses bontés. Mais voyant la bourse aussi à propos et aussi bien garnie, je revins gaiement à l'auberge. J'eus de la peine à trouver Biondetta dans l'espèce de logement où elle s'était réfugiée. Elle y entrait par un dégagement distant de ma porte. Je m'y aventurai par hasard et la vis courbée près d'une fenêtre, fort occupée à rassembler et recoller les débris d'un clavecin. « J'ai de l'argent, lui dis-je, et je vous rapporte celui que vous m'avez prêté. » Elle rougit, ce qui lui arrivait toujours avant de parler. Elle chercha mon obligation, me la remit, prit la somme et se contenta de me dire que j'étais trop exact et que lui désirait jouir plus longtemps du plaisir de m'avoir obligé. « Mais je vous dois encore, lui dis-je, car vous avez payé les postes. » Elle en avait l'état sur la table. Je la quittai. Je sortis avec un sang-froid apparent. Elle me demanda mes ordres. Bon, je n'en eus pas à lui donner. Et elle se remit tranquillement à son ouvrage. Elle me tournait le dos. Je l'observai quelque temps. Elle semblait très occupée et apportait à son travail autant d'adresse que d'activité. Je revins rêver dans ma chambre. « Voilà, disais-je, le père de ce Calderon qui allumait la pipe à Soberano. Et quoi qu'il ait l'air très distingué, il n'est pas de meilleure maison. S'il ne se rend ni exigeant ni incommode, s'il n'a pas de prétention, pourquoi ne garderais-je pas ? Il m'assure d'ailleurs que pour le renvoyer, il ne faut qu'un acte de ma volonté. Pourquoi me presser de vouloir tout à l'heure ce que je puis vouloir à tous les instants du jour ? On interrompit mes réflexions et m'annonçant que j'étais servi. Je me mis à table. Biondetta, en grande livrée, était derrière mon siège, attentive à prévenir mes besoins. Bon, je n'avais pas besoin de me retourner pour la voir. Trois glaces disposées dans le salon répétaient tous ses mouvements. Le dîner fini, on dessert, elle se retire. L'aubergiste monte. La connaissance n'était pas nouvelle, on était en carnaval. Mon arrivée n'avait rien dit qui dût le surprendre. Il me félicita sur l'augmentation de mon train, qui supposait un meilleur état dans ma fortune, et se rabattit sur les louanges de mon page, le jeune homme le plus beau, le plus affectionné, le plus intelligent, le plus doux qu'il eût encore vu. Il me demanda si je comptais prendre part au plaisir du carnaval. Oui, c'était mon intention. Je pris un déguisement et montai dans ma gondole. Je courus la place. J'allai au spectacle, au Ridotto. Je jouais, je gagnais 40 sequins et rentrai assez tard, ayant cherché de la dissipation partout où j'avais cru pouvoir en trouver. Mon page, un flambeau à la main, me reçoit au bas de l'escalier, me livre aux soins d'un valet de chambre et se retire, après m'avoir demandé à quelle heure j'ordonnais que l'on entrât chez moi. « À l'heure ordinaire, répondis-je, sans savoir ce que je disais, sans penser que personne n'était au fait de ma manière de vivre. Je me réveillai tard le lendemain et me levai promptement. Je jetai par hasard les yeux sur les lettres de ma mère demeurées sur la table. « Digne femme, m'écriai-je, oh, que fais-je ici? Que devais-je me mettre à l'abri de vos sages conseils ?» « Oui, j'irai. Ah, oui, j'irai. C'est le seul parti qui me reste. » Comme je parlais haut, on s'aperçut que j'étais éveillé. On entra chez moi et je revis l'écueil de ma raison. Il avait l'air désintéressé, modeste, soumis, et ne m'en parut que plus dangereux. Il m'annonçait un tailleur et des étoffes. Le marché fait, il disparut avec lui jusqu'à l'heure du repas. Je mangeai peu et courus me précipiter à travers le tourbillon des amusements de la ville. Je cherchais les masques, j'écoutais et je fis de froides plaisanteries et terminai la scène par l'opéra, surtout le jeu, jusqu'alors ma passion favorite. Je gagnai beaucoup plus à cette seconde séance qu'à la première. 10 jours se passèrent dans la même situation de cœur et d'esprit, et à peu près dans des dissipations semblables. Je trouvai d'anciennes connaissances, j'en fis de nouvelles. On me présenta aux assemblées les plus distinguées. Je fus admis au parti des nobles dans leur casin. Tout allait bien, si ma fortune au jeu ne s'était pas démentie. Mais je perdis au ridotto en une soirée 1300 sequins que j'avais amassés. Ah, on n'a jamais joué d'un plus grand malheur. À 3 heures du matin, je me retirai mis à sec devant 100 sequins à mes connaissances. Mon chagrin était écrit dans mes regards et surtout mon extérieur. Biodetta me parut affectée, mais elle n'ouvrit pas la bouche. Le lendemain, je me levai tard. Je me promenais à grands pas dans ma chambre en frappant des pieds. On me sert, je ne mange point. Le service enlevé, Biondetta reste contre son ordinaire. Elle me fixe un instant, laisse échapper quelques larmes. Vous avez perdu de l'argent, Don Alvare, peut-être plus que vous n'en pouvez payer. Oui, et quand cela serait, vous trouverez-je le remède? Vous m'offensez, mes services sont toujours à vous au même prix, mais ils ne s'étendraient pas loin s'ils n'allaient qu'à vous faire contacter avec moi de ces obligations que vous croyez dans la nécessité de remplir sur le champ. Trouvez bon que je prenne un siège. Je sens une émotion qui ne me permettrait pas de me soutenir debout. J'ai d'ailleurs des choses importantes à vous dire. Voulez-vous vous miner? Pourquoi jouez-vous avec cette fureur, puisque vous ne savez pas jouer? Tout le monde ne sait-il pas les jeux de hasard? Quelqu'un pourrait-il me les apprendre? Oui. Prudence à part, on apprend les jeux de chance, que vous appelez mal à propos, jeux de hasard. Il n'y a point de hasard dans le monde. Tout y a été et sera toujours une suite de combinaisons nécessaires, que l'on ne peut entendre que par la science des nombres, dont les principes sont en même temps et si abstraits et si profonds, que l'on ne peut les saisir si l'on est conduit par un maître. Mais il faut avoir su se le donner et se l'attacher. Je ne puis vous peindre cette connaissance sublime que par une image. L'enchaînement des nombres fait la cadence de l'univers, règle ce qu'on appelle les événements fortuits et prétendus déterminés, les forçant par des balanciers invisibles à tomber chacun à leur tour, depuis ce qui se passe d'important dans les sphères éloignées, jusqu'aux misérables petites chances qui vous ont aujourd'hui dépouillé de votre argent. Cette tirade scientifique dans une bouche enfantine, cette proposition un peu brusque de me donner un maître, m'occasionnèrent un léger frisson, un peu de cette sueur froide qui m'avait saisi sous la voûte du Portici. Je fixe Biondetta, qui baissait la vue. « Mais je ne veux pas de maître, lui dis-je. Je craindrais d'en trop apprendre. Mais essayez de me prouver qu'un gentilhomme peut savoir un peu plus que le jeu et s'en servir sans compromettre son caractère. » Elle prit la thèse, et voici en substance l'abrégé de sa démonstration. La banque est combinée sur le pied d'un profit exorbitant qui se renouvelle à chaque taille. Si elle ne courait pas ces risques, la République ferait à coup sûr un vol manifeste aux particuliers. Mais les calculs que nous pouvons faire sont supposés, et la banque a toujours beau jeu en tenant contre une personne instruite sur 10 000 dupes. La conviction fut poussée plus loin. On m'enseigna une seule combinaison, très simple en apparence, mais l'on ne devinait pas les principes. Mais dès le soir même, j'en connus l'infaillibilité par le succès. En un mot, je regagnais en la suivant tout ce que j'avais perdu, payai mes dettes de jeu et rendis en rentrant à Biondetta l'argent qu'elle m'avait prêté pour tenter l'aventure. J'étais en fond, mais plus embarrassé que jamais.